Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
L'espoir est en marche, c'est le slogan du parti Syriza qui a remporté donc les élections législatives hier, même si on n'a pas encore tout à fait tous les résultats. Il manque, me disait Olivier Nanré, à peu près 8% à dépouiller de bulletins de vote. On n'a pas toutes les estimations, ni même encore le taux de participation. Mais enfin, pour l'instant, Syriza donc aurait 149 sièges sur les 151 qu'il doit avoir pour avoir une majorité absolue. Alors de l'espoir et du courage, la Grèce en a besoin pour sortir des cures d'austérité successives qui, sans avoir relevé l'économie grecque, ont sensiblement ralenti sa chute libre. Côté social, le bilan du plan de sauvetage imposé à la Grèce par la Troïka est quant à lui désormais, du point de vue de très nombreux observateurs, négatifs, voire calamiteux. Après 6 ans de récession et de coupes budgétaires dans les dépenses d'État, le chômage en Grèce dépasse les 26%. Un tiers de la population n'a pas les moyens de se soigner faute de sécurité sociale et les services publics visés en priorité par les restrictions n'assurent souvent que partiellement, voire pas du tout, leur mission. Le parti de gauche radicale a donc fort à faire pour honorer toutes les promesses faites par son leader, Alexis Tsipras, durant sa campagne, et qui a donc le plus raison d'espérer en Grèce, après la victoire de Syriza aux élections législatives, anticipées d'hier. Comment ce parti composite peut-il relever la Grèce, qui vit en état d'urgence sociale et économique depuis 6 ans? Et comment l'extrême gauche grecque sera-t-elle perçue par les leaders européens, tiède, pour ne pas dire froid, à l'idée de devoir négocier avec eux? Rappelons que c'est la première fois de l'histoire que Bruxelles devra négocier avec un gouvernement de gauche radicale. Je vois déjà une de mes invitées sourire et il faut que je fasse gaffe ce matin. Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Vous ne m'avez pas raté, page 96 de votre livre, je la retrouve en direct. Oui, vous dites voilà, alors que je suis l'invité sur France Culture, l'animateur de la matinale, Marc Voinchet, me présente Clémentine Autain, militante d'extrême gauche. Ça n'est pas infamant comme qualificatif, mais je ne me reconnais pas sous cette étiquette. Alors, c'est quoi la différence? Il faut que je dise gauche radicale, front
gauche.
Oui,
c'est comme Syriza. Je ne crois pas qu'ils se définissent comme extrême gauche, parce qu'en fait, ça met dans un petit précaré de la marginalité. Et là, justement, Syriza, une des raisons pour lesquelles ils sont passés de l'extrême gauche à la gauche radicale, c'est leur score. C'est le fait d'être aujourd'hui majoritaire. Ça n'enlève rien sur la nature de rupture que porte le projet de Syriza ou le projet que nous avons en front de gauche dans cette gauche radicale. Mais je crois qu'extrême gauche, c'est une manière de disqualifier finalement le projet politique.
Cela dit, vous savez qu'à une époque, ça n'était pas vécu comme ça, hein, quand on parlait de quelqu'un d'extrême gauche.
J'entends bien. Par ailleurs, l'extrême gauche en France.
On est assez vieux pour savoir qu'à l'époque, c'était pas vécu comme infamant.
L'extrême gauche en France n'a pas soutenu Syriza. C'est important de le dire, le NPA ou Lutte ouvrière.
Alors, Clémentine Autain, pour commenter cette actualité, vous êtes notre invitée, puis vous avez été bien sûr longtemps chroniqueuse dans les matins de France Culture.
Nous avec grand bonheur.
Raison d'espérer, qui reprend quasiment au fond peut-être un des slogans de Syriza comme titre, hein, fragment de vie politique chez Flammarion. Et puis nous sommes en compagnie d'une grande et bonne spécialiste de la question grecque, Noël Burgi. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un ouvrage collectif aux éditions du Bord de l'eau, La grande régression, la Grèce et l'avenir de l'Europe. Et vous êtes docteur d'État en sciences politiques, chercheuse au Centre européen de sociologie donc, et de sciences politiques. Écoutez, peut-être la première question sera très simple. La majorité de la presse européenne et même française parle de victoire historique. Alors, d'accord pour victoire, mais comment interprétez-vous, Noël Burgi, d'abord ce terme historique? Est-ce qu'on ne s'emballe pas peut-être un peu vite, Noël Burgi?
Victoire historique, certainement, je pense, parce que c'est le contexte qui fait l'histoire. C'est pas... Alors, effectivement, si vous voulez, on est en présence d'un parti qui, en 2009, faisait 4,6% des voix, et qui a une progression soutenue, puisque en 2012, les élections législatives de 2012, il est passé à 12%, puis à 26%, et ensuite à 27%. Et maintenant, il est à combien? Quel est le score d'aujourd'hui? Au-dessus de 35%.
Voilà, au-dessus de 35%.
Mais c'est le contexte qui fait le caractère historique, et le contexte, c'est bien entendu celui d'une politique, celle de l'austérité, qui est imposée partout en Europe.
Le contexte, dites-vous, mais tout de même, pour refaire l'histoire de ce parti, il faut rappeler qu'il est au départ fait de tas de petits partis très composites.
Tout à fait.
Et effectivement, l'ascension fulgurante, parce que c'est en même temps très court pour un jeune parti politique que d'arriver à ce point, à ce résultat d'aujourd'hui, ça tient à quoi ce qui a rendu homogène et possible une victoire de gens tout de même avec au sein de leurs propres idées, certes, beaucoup de différences.
Je pense que c'est lié...
Est-ce que c'est Tsipras ? Alors, est-ce que c'est lié, toujours pareil, à la figure du leader et charisme ?
Non, il ne faut surtout pas dire ça, pas pour la Grèce, parce que... c'est une histoire qui est liée à la recomposition de la gauche qui était très fragmentée après la fin de la dictature en 1974. L'histoire de Syriza commence avec une scission, il y en a eu deux, mais il y a eu une scission du Parti communiste grec en 1991 et la formation de ce qui deviendra le parti de Tsipras, Synaspismos, qui est donc le parti à l'époque de la gauche, la coalition de la gauche et du progrès, et qui ensuite fera partie de Syriza, constituée en tant que telle en 2006 et ayant 13 composantes à l'époque, lesquelles étaient autonomes. C'est-à-dire c'est une réussite là de unification. C'était, il faut dire aussi surtout que c'était une coalition. Hein. Le parti Syriza n'existe en tant que parti que depuis 2012-2013. Donc c'était une coalition des gauches critiques alternatives, comprenant allant de l'écologie jusqu'au trotskisme, toute une série, et qui a progressé petit à petit. Et c'est une tentative. Je pense que l'histoire de la dictature a joué beaucoup dans la reconstitution de cette gauche fragmentée.
Je voudrais vous faire écouter un de ceux qui étaient la semaine dernière dans le 11e arrondissement de Paris, au gymnase Japy, à l'appel de divers partis de gauche, le parti de gauche, les Verts, le parti communiste, pour un meeting de soutien à Syriza. On était donc avant le premier tour. Écoutez, Nestor, Antoine Beauchamp, lui a posé la question. C'est un jeune militant grec de 26 ans, qui soutient le parti d'Alexis Tsipras. Qui est, c'est quoi Syriza ? Écoutez la réponse de Nestor au micro d'Antoine Beauchamp.
C'est un parti de la gauche radicale. C'est un parti qui vise au socialisme. Mais dans ce parti, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs approches théoriques. C'est un parti clairement démocratique, où il y a un vrai dialogue entre les militants et entre les courants, et les décisions sont prises vraiment démocratiquement.
Voilà, donc Nestor, 26 ans, mais écoutez maintenant Dido, elle a 62 ans, elle espère beaucoup aussi de l'élection de Syriza. L'arrivée de Syriza au pouvoir pourrait permettre, dit-elle à Antoine Beauchamp, la réconciliation de la Grèce avec elle-même.
C'est enfin l'espoir qu'il y aura premièrement une réconciliation de la Grèce avec elle-même, parce que dans l'histoire de la Grèce, la gauche n'est jamais venue au pouvoir, malgré un prix très fort pendant la guerre civile, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il faut un peu d'espoir pour que ce peuple se relève économiquement, parce que le programme de Syriza est un programme qui donne non seulement de l'espoir, mais des pistes sérieuses pour qu'on essaye de sortir de cette austérité qui écrase le peuple. Juste une chose, j'ai vu aujourd'hui sur un panneau que lorsqu'un Allemand gagne 8000 euros par an, il paye 20 euros d'impôts. Il est taxé sur 20 euros. Un Grec aujourd'hui qui gagne 8000 euros paye 3200 euros la dette. Donc voyez-vous, c'est-à-dire on a écrasé de façon vraiment brutale ce pays.
Voilà, donc Dido qui était au gymnase de Japy dans le 11e arrondissement lundi dernier. Clémentine Autain, comment voyez-vous, indépendamment de la réussite électorale, de ce tour des élections anticipées et législatives, ce tour de force que d'avoir réuni autant de petits partis par un seul homme qui visiblement fait exemple en Grèce, mais pas franchement en France.
Oui et
quel
non.
Quel exemple tirer de cela ?
Moi, je tire beaucoup d'enseignements. Bon, d'abord, la situation de la Grèce n'est pas celle de la France. C'est important de le dire parce que c'est une situation... Et c'est tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Parce que c'est un désastre humanitaire, je ne reviens pas dessus. Mais que 9 plans d'austérité ont ravagé le pays. Et donc, ce n'est pas la situation de la France. Pour autant, il y a un travail qui est lié à la recomposition d'une gauche radicale, sachant qu'au XXe siècle, la tradition du mouvement ouvrier a été profondément en crise et nous sommes aujourd'hui collectivement en crise. Donc c'est un début de sortie. Si cette victoire est historique, c'est bien sûr parce que c'est la première fois qu'un peuple dit stop aux politiques d'austérité de façon franche. Donc on peut le voir comme un point de départ, surtout si on regarde du côté de Podemos en Espagne, qui lui aussi, de façon totalement fulgurante, fait un essor sur cet argument du rejet des politiques d'austérité. Et le deuxième corollaire sur l'enjeu de la démocratie, qui est central aussi dans ce que défend Syriza. Donc ça, c'est un premier enjeu. Mais le deuxième, c'est une façon de relever la tête pour une tradition du mouvement ouvrier qui a été impactée par les échecs de type soviétique, mais aussi par les impasses de la social-démocratie. Et donc, je pense que si c'est historique, c'est que Syriza nous dit c'est possible de remettre en marche l'espoir dans la transformation sociale et écologique, c'est-à-dire dans le progrès humain. Et ils l'ont fait patiemment, en articulant finalement l'apport de traditions existantes, hein, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des bouts de sensibilité politique qui préexistaient. Mais à partir de ces histoires, il y a eu une rénovation profonde du profil politique. Moi, ce qui me frappe aussi bien pour Alexis Tsipras, mais aussi pour Iglesias en Espagne, c'est que ce sont des personnalités qui apparaissent neuves sur le plan politique et que on croise à la fois le besoin de retrouver le chemin du progrès humain, c'est-à-dire de faire en sorte que l'avenir puisse être envisagé pas simplement comme une régression, mais comme un possible progrès pour le grand nombre. Et dans le même temps, cette rupture nécessaire avec la façon de faire de la politique qui est très corrompue, qui est pleine de langues de bois. Il y a un besoin de fraîcheur et de novation.
Cela dit, en êtes-vous, bien sûr, certains observateurs disent que si au fond Syriza a été élu ou passe en tête aujourd'hui, évidemment, à l'Assemblée nationale, ou va peut-être avoir, on ne sait pas encore, cette majorité absolue qui lui faut, ces 151 sièges, étant bien sûr que c'est par adhésion, ou simplement est-on sûr que ça n'est pas plutôt par un rejet de la classe politique traditionnelle et classique, et qu'au fond Syriza paiera très vite le prix d'un état de grâce qui, selon certains, ne durera pas très longtemps. Noël Burgi, Clémentine Autain.
Oui, moi je pense que c'est un mélange des deux, et je pense que la question est moins de savoir s'ils vont reculer ou s'ils vont que de savoir quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui.
Ça, les marges de manœuvre, nous y verrons dans un instant. Mais est-ce qu'on est bien sûr que la population grecque semble adhérer à Syriza plus qu'elle ne rejette les autres?
Mais c'est un peu les deux, si je puis me permettre. Oui, c'est-à-dire que dans la critique et le rejet, bien sûr, mais dans la critique, il y a dans le non, dans le refus, il y a toujours l'invention d'un oui. Les deux sont totalement liés. Et donc, c'est l'expression d'un rejet de la politique de la Troïka, en gros, hein, quand même. Hein, c'est ce qu'ils ont incarné. Et en même temps, cet espoir dans un avenir qui soit un avenir plus radieux. Et la question de la dignité, qui a été au cœur de son discours hier, la dignité populaire.
Le fait que, depuis longtemps, les Grecs se sentaient humiliés par la politique qu'on leur infligeait.
Humiliés et de retrouver la fierté du peuple contre les oligarchies. C'est ce message-là qui est passé avec force aussi hier soir.
Absolument.
Noël Burgi.
Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que Syriza aujourd'hui n'est plus une coalition de petits partis. Il y a un phénomène nouveau qui est en train de se passer et l'adhésion dont vous parlez, bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont voté Syriza parce qu'ils se sont sentis trahis, par exemple, par la Nouvelle Démocratie, ou parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais en fait, ils ont voté en grande partie contre la peur, malgré la peur qui a été mobilisée dans les campagnes à la fois internationales et de la Nouvelle Démocratie. Donc, ils adhèrent pas forcément, mais ils vont peut-être adhérer. Tout dépend de ce qui va pouvoir être fait.
Maintenant. C'était important de dire que Clément les pressions Dignotin. Qui ont été faites, oui. Elles ont été faites beaucoup par Angela Merkel, mais aussi par la France. Il faut se souvenir que Pierre Moscovici était allé en Grèce soutenir Samaras et en agitant l'épouvantail d'une victoire de Syriza comme étant dramatique. Alors, quand hier soir, je voyais des leaders socialistes dire qu'ils étaient heureux que Syriza ait gagné, voire certains quasiment, on avait l'impression qu'ils avaient soutenu Syriza, c'est vrai que c'était assez cocasse. Or, c'est une ingérence dans les élections grecques qui, par exemple, n'a pas été le cas quand il s'est agi de Viktor Orban, où là, son élection, il fallait surtout ne pas mettre son nez dedans, etc., accepter. Donc, il y a eu un deux poids, deux mesures qui s'est retourné, finalement, contre cette Troïka.
C'est pas un vote de protestation. C'est pas un vote de protestation
ordinaire.
C'est pas
un vote de rejet des classes
dominantes. C'est un vote de rejet.
Est-ce que c'est pas un vote à la Mélenchon qui avait écrit un livre dont le titre vous avait fait tordre le nez aussi, Clémentine Autain, après c'est tout, qu'ils s'en aillent tous. Est-ce que c'est un vote de qu'ils s'en aillent tous?
C'est aussi ça. C'est un vote de rejet du système politique.
Il va falloir qu'on arrive à trouver ce que c'est quand même, à force de dire que c'est un peu tout à la fois.
C'est un vote de rejet du système politique. Honni d'un système politique honni, totalement corrompu, d'un système politique qui a été totalement incapable, y compris de construire un État.
Ce qui fait que la victoire de Syriza peut être aussi adoubée en France par le Front National.
Ça, c'est quand même délirant. Pardonnez-moi, écoutez, j'entends bien qu'il le dit.
On est bien en train de définir tout ce que aussi
vous avez raison,
dit de son côté, il faut qu'ils en aillent tous.
Je veux juste préciser là-dessus, parce qu'en effet, Florian Philippot, hier, n'arrêtait pas de dire, il y a Syriza en Grèce, puis nous sommes l'équivalent en France. Alors, là où il y a quelque chose de juste, pour être très honnête, c'est que c'est la cristallisation de la contestation du système, du rejet du système. Mais il faut faire très attention, parce que c'est un brouillage d'identité monstrueux. Syriza, sa famille politique, c'est la gauche, et laissez entendre que la gauche radicale, l'extrême gauche, que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette famille politique-là,
cette gauche radicale,
pourrait être transposée en France par une proposition politique autoritaire, libérale, en grande partie, du côté du Front National et du côté de l'ordre, et pas du tout du côté de l'émancipation humaine. Ce sont des ennemis historiques. L'extrême droite et la gauche radicale, ce sont des ennemis historiques. Donc, il y a là une confusion entretenue par le Front National en France qui me paraît particulièrement malsaine, pour le dire franchement.
Oui, je pense que c'est très important de ne pas mélanger les deux, de ne pas, notamment avec le fameux mot de populisme. Et historiquement, on peut dire aussi, enfin, quand même, Karl Polanyi, quand il analysait la montée du libéralisme au XIXe siècle, avait parlé d'une cruauté scientifique à l'époque, de ceux qui pensaient que la science du marché autorégulateur à l'époque devait être mise en application indépendamment des conséquences sociales et politiques aujourd'hui, on est face à une cruauté, je dirais, dogmatique. C'est-à-dire qu'on est en face.
Une cruauté dogmatique. L'Europe a versé à la Grèce 260 ou 300 millions d'euros d'aide. Vous appelez ça de la cruauté dogmatique, vous?
Oui, bien sûr que oui, mais ça ne marche pas comme ça. Mais non, mais en réalité, ça marche.
Bah, oui, pour une raison. On a créé, avec la victoire de Syriza, un euroscepticisme encore plus fort qu'auparavant. Puisque si Syriza dit qu'il veut mettre le reste de l'Europe au pas, il faudra quand même qu'il montre comment il va faire.
Bien sûr, mais il faut quand même rappeler une chose simple, c'est que ce sont les banques allemandes et françaises qui se sont engraissées sur le dos du peuple grec. Donc aller dire que l'Europe a aidé les Grecs est juste une plaisanterie.
L'Europe n'a pas aidé à hauteur de quasiment 300 millions d'euros la Grèce.
Ils se sont engraissés, ils ont prêté à des taux qui sont des taux absolument exorbitants, et les Grecs, ce qu'ils payent, c'est l'intérêt de la dette. Donc je trouve que cette succerie absolument infernale dans laquelle on nous explique depuis hier que l'Europe a tant fait pour les Grecs, alors que l'Europe a fait 9 plans d'austérité qui ont plongé la Grèce dans le marasme et dans le désastre.
Je vous poserai tout de même la question de Philippe Gély dans le Figaro de ce matin, et puis nous aurons tout le temps d'y répondre en deuxième partie. Où a-t-on vu qu'un débiteur pouvait dicter ses conditions à ses créanciers, surtout après avoir empoché l'argent?
Parce que la question qui est posée, c'est la nature de la dette. C'est un moratoire sur la dette pour qu'on regarde comment elle a été fabriquée, à qui elle profite et pourquoi il y a cette dette. Et nous avions demandé il y a déjà longtemps que la Banque Centrale Européenne puisse prêter à des taux très faibles, voire quasiment zéro, aux États. Or, ça passe par le privé. Et le privé, c'est-à-dire qu'il y a en fait une mainmise de la finance sur cette économie, et c'est cela qui est dénoncé par Tsipras, et c'est en quoi ce serait intéressant pour l'ensemble des peuples européens de dire faisons un audit citoyen de cette dette.
Brice Couturier étant dans son lit, nous le retrouverons au téléphone tout à l'heure à 8h15 pour sa chronique.